Actu SF, les podcasts.
Bien, nous allons commencer la conférence sur les zombies. Alors nous saluons les courageux spectateurs qui viennent écouter la conférence de Patrick Bergeron, d'abord parce que nous sommes en fin de journée, ensuite parce qu'il fait un petit peu chaud évidemment sous les Magic Mirror, mais vous ne serez absolument pas déçus parce que cette conférence sera consacrée à Debout les zombies et bien sûr à l'apocalypse et à la fin du monde, donc c'est vraiment un thème qui est tout à fait intéressant et fascinant. Et donc je vais commencer par présenter donc Patrick Bergeron, qui est professeur donc au département d'études françaises de l'université du Nouveau-Brunswick. Patrick Bergeron fait partie donc de l'équipe invitée, donc le Canada invité donc cette année. Voilà la délégation canadienne. Et donc c'est bien aussi qu'il y ait un universitaire, et puis pour vous montrer que les universitaires aussi s'intéressent à des sujets tout à fait passionnants, pour sortir un petit peu des sentiers battus. Il est notamment l'auteur donc du petit essai Nécrophilie, un tombeau donc nommé Désir, que vous trouvez, je pense, à la librairie donc du festival. Voilà, mais il a écrit aussi des choses beaucoup plus sérieuses, par exemple comme Décadence et mort chez Barès et Offenstahl, pardon, Offenstahl, Le point doré de périr, ou encore Passer sous silence. Patrick, en fait, Bergeron est spécialiste des rapports entre la littérature et la mort, et il fait d'ailleurs à ce titre partie du comité scientifique de Frontières, qui est une revue québécoise, en étude sur la mort. Il est également collaborateur régulier du magazine Nuit Blanche, et il a également co-dirigé le collectif Les Réécrivains, enjeux textuels dans la littérature moderne d'expression française. Donc vous voyez des choses extrêmement sérieuses. Et puis je suis vraiment ravie de vous le présenter aussi, parce que Patrick travaille donc avec nous sur la science-fiction, et on aurait dû évidemment le présenter au festival, mais il y a eu des petits retards, mais nous publions donc bientôt 27 articles sur la science-fiction ancienne française donc et québécoise, et nous avons publié un premier tome qui s'appelle « Les dieux cachés donc, de la science-fiction française et francophone », donc tous les travaux universitaires sur la science-fiction française et québécoise. Voilà, donc dans cette conférence, Patrick Bergeron va évoquer deux perspectives. Notre intérêt contemporain d'abord pour le zombie, créature hybride par excellence entre humanité et monstruosité, et pour apocalypse au sens de catastrophe totale, totalitaire, une apocalypse profane plongeant dans la mort des populations données, donc de l'humanité entière. Alors le zombie, héritier des revenants du Moyen-Âge dans l'imaginaire occidental, il est souvent vu comme un signe annonciateur de fin du monde. Le zombie est un récit eschatologique, un phénomène social qui reproduit une possibilité de la fin du monde et plus spécifiquement de la fin de société. Le zombie, comme virus, s'attaque aux individus, par exemple. Mais le zombie est également un signe annonciateur de pourrissement de l'homme et un symbole donc de déshumanisation. Voilà. Donc je pense que Patrick va expliquer donc tout cela pendant cette conférence, et donc maintenant je lui laisse évidemment la parole.
Très bien, merci Natacha, merci aux organisateurs qui ont rendu ma visite possible. Je suis très heureux d'être parmi vous. Et parmi les détails qui ne se prévoient pas, mais qui sont d'heureuses coïncidences, c'est aujourd'hui, il y a 40 ans, que sortait en salle le deuxième film de la trilogie séminale de Romero, L'aube des morts vivants. Donc moi, je vais vous parler en fait... de renaissance zombie. Je ne sais pas si Aurélie... voilà, la renaissance zombie, puisque l'âge d'or des zombies, en réalité, c'est entre 1968 et le milieu des années 80. Et le zombie, qui fait un retour en force très puissant depuis le début du troisième millénaire. Donc, c'est en gros, c'est de ça que je vais vous parler. Donc, j'ai un texte que je vais suivre, mais j'invite la présidente à intervenir quand elle veut. Et il y aura discussion possible à la fin pour élargir, si vous voulez, poursuivre la discussion à propos de la dimension proprement apocalyptique, puisque les apocalypses fictives en général m'intéressent beaucoup dans mes recherches. Alors, renaissance zombie, véritablement, plusieurs signes l'attestent, entre autres les nombreuses déclinaisons de la franchise The Walking Dead. Je ne sais pas si dans le public, les gens sont familiers avec cette franchise. Grand succès en France, j'imagine, autant qu'en Amérique du Nord, mais chez nous, alors que ce soit dans les commerces ou sur Internet, vous pouvez vous acheter non seulement des bandes dessinées ou des coffrets DVD, mais des jeux de société, des tasses, des bijoux, toutes sortes d'articles. Alors, ils déclinent le merchandising décliné à l'infini. Donc, un des succès d'une franchise qui est une des illustrations de cette renaissance zombie. De même, un véritable foisonnement de récits de zombies, pas toujours présent en traduction française. Certains récits américains sont toujours inédits en français, d'après mes vérifications. Mais des auteurs qui vont se spécialiser, qui vont publier plusieurs récits de zombies. Je pense à des gens comme Max Brooks, que vous connaissez peut-être, Brian Keene, Jonathan Mabury, Joe McKinney, David Moody, David Wellington, pour seulement citer quelques noms. Chaque romancier s'efforce de développer une vision originale de l'apocalypse zombie, voilà, en donnant parfois. David Wellington, dans sa trilogie de Monster Island, va développer à la fois le mythe du zombie, mais couplé avec celui de la momie. Ou encore Connie Priest, qui est Sherry Priest, qui, dans Bone Shaker, par exemple, va amalgamer une histoire de zombie avec une uchronie steampunk. Malgré donc. Grande possibilité de s'approprier le sujet de façon originale. Je vous dirais que tous, dans l'ensemble, sont assez tributaires de je sais pas si Aurélie peut présenter l'image suivante, de George Romero, inventeur de la figure de zombie postmoderne. Donc, le zombie dont il va être question, bien, c'est un zombie post-romérien. C'est lui, Romero, l'initiateur de la première zombie-manie qui a connu son apogée, on pourrait dire, au cinéma entre 1968 et 1985. Depuis, Romero a ajouté d'autres films, mais disons, ces trois premiers sont les films essentiels du phénomène. Et donc, le zombie romérien, que je vais distinguer du zombie. Vaudou haïtien, parce que on verra que c'est pas tout à fait la même chose, même si c'est sûr qu'il y a un rapport de filiation, mais le zombie qui nous intéresse et celui qui va vraiment proliférer dans ce que j'ai appelé tout à l'heure la renaissance zombie, c'est un zombie qui poursuit la vision de Romero. Donc, retour en force depuis le début des années 2000. Vous avez peut-être quelques illustrations vous-même en tête. Dans les films, par exemple, de Danny Boyle, de 28 jours plus tard, en 2002. Zack Snyder, en 2004, qui faisait un remake de L'Aube des Morts. On peut penser aussi à la popularisation de la franchise de jeux vidéo. Resident Evil, à partir de 1996, qui depuis a plusieurs jeux qui ont eux-mêmes donné lieu à cinq films entre 2002 et 2012. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé, et c'est en ce sens que je vous propose un parcours de lecture. Vous aurez peut-être un certain nombre de références vous-même qu'on pourrait ajouter. Donc, je ne vous propose pas un parcours exhaustif, mais peut-être un parcours de lecture représentatif de ce qu'on peut trouver si on s'intéresse aux zombies en littérature. Parce que c'est la question, dans le fond, à laquelle je voulais réfléchir. C'est le zombie qui nous intéresse nous vient essentiellement du cinéma, mais qu'en est-il du zombie littéraire? Est-ce qu'on pourrait partir à la recherche d'un grand roman de zombies? Est-ce qu'il y a un Dracula ou un Frankenstein de l'imaginaire zombie? Donc, c'est ce que je cherchais et je ne vous dis pas tout de suite le résultat de ma réflexion pour que vous puissiez m'accompagner. Voilà. Donc, il y a au sein du roman de genre une véritable prolifération depuis une quinzaine d'années environ de romans de genre zombie, qui va, il faut bien se l'avouer, s'adresser d'abord à un aficionado de fiction du genre, donc quelqu'un qui s'attend de retrouver les codes du genre. Et on a d'autres cas qui sont plus rares, mais tout de même avérés, où l'appropriation des codes du récit de zombie va donner lieu à un inattendu travail d'écriture, si bien que le lecteur qui est visé est non seulement un mordu du genre, on peut y voir un jeu de mots, c'est non intentionnel. Donc, un travail d'écriture de manière à intéresser le lecteur de romans tout court. Ce sont de bons romans tout court. Donc, c'est vers ça qu'on va en venir. Donc, un tour d'horizon critique sur, si vous voulez, les modalités d'écriture du récit de zombies à partir de quelques œuvres qui, à mon avis, se démarquent. Diapositive suivante. Donc, le déferlement du zombie littéraire est à la fois surprenant et à la fois il ne l'est pas. Surprenant parce que, contrairement au vampire, il ne doit pas son succès à la littérature. Le zombie tel qu'on le connaît, cadavre réanimé, sans esprit, mais pas sans cerveau. Le cerveau a son importance pour le zombie, puisque c'est son point de vulnérabilité. Zombie souvent, mais pas toujours, à la démarche lente, à l'appétit carnivale vorace, eh bien, ce zombie est d'origine cinématographique, et c'est comme je l'ai évoqué tout à l'heure, George Romero, qui en est le grand initiateur, avec sa série de 6 films, dont les 3 premiers, surtout, ont exercé une forte influence. La Nuit des morts vivants, 1968, L'aube des morts, qui je crois en France s'appelle aussi Zombie, 1978, et Le jour des morts, 1985, poursuivi 20 ans plus tard par Land of the Dead, donc je sais pas comment on l'a traduit celui-là, Diary of the Dead, donc Le monde des morts, Le journal des morts, et Survival of the Dead, la survie des morts, donc 2005, 2007, 2010. Bien sûr, à quoi on pourrait ajouter un film de 1973, The Crazies, Romero, qui est un de ses films un peu méconnu, mal aimé, mais qui est tout à fait fascinant, même s'il décline d'une façon moins explicite le motif du zombie. Diapositive suivante, de consécration plus récente, il faut penser aussi à Robert Kirkman, créateur avec les dessinateurs Tony Moore et Charlie Adler de la série The Walking Dead, série de bandes dessinées toujours en cours de progression depuis 2003 et dont on connaît bien, je présume, l'adaptation en série télévisée depuis 2010. Alors, la 8e saison vient de se terminer. J'imagine que vous pouvez suivre à peu près en même temps en France. En Amérique du Nord, c'est sur la chaîne AMC. Qui est une contribution extrêmement significative, à mon avis, pour prolonger le zombie romérien. Signalons en passant que Kirkman est aussi le responsable de la zombification du panthéon Marvel, puisqu'il a signé une série de bandes dessinées Marvel, les Marvel Zombies, où est-ce que vous voyez les grands super-héros se zombifier à leur tour. Et Romero, Kirkman, ce que les deux exemples montrent, c'est que donc le zombie comme tel, comme phénomène, concerne bien davantage le cinéma et même la bande dessinée ou la télévision, bien davantage que la littérature. Et on peut également ajouter, j'y faisais référence tout à l'heure, le jeu vidéo avec la franchise Resident Evil, mais à laquelle on peut ajouter toutes sortes. Alors moi-même, je ne suis pas un grand amateur de jeux vidéo, mais House of the Dead, Call of Duty, Dead Rising, Left 4 Dead, Plants vs. Zombies, donc toutes sortes de jeux vidéo qui exploitent le motif du zombie. On peut mentionner également quelques incursions de Romero et de Kirkman dans le roman. Je pense que, par exemple, Romero a co-signé avec Susanna Sparrow une novélisation de Dawn of the Dead, de l'aube des morts, en 1978. Et Kirkman a co-signé avec Jay Bonasinga, qui en est dans le fond le principal auteur, toute une série de romans dérivés, de spin-off de la série télévisée, entre autres, je crois, deux volumes qui s'intéressent au personnage du gouverneur, qui est peut-être familier à certains membres du public. Mais à mon avis, donc, ces novelisations ou ces romans dérivés n'ont surtout d'impact qu'en tant que prolongement de leurs films, bandes dessinées ou téléséries respectives, qui sont les phénomènes les plus importants. D'un autre côté, il n'est pas surprenant que le zombie envahisse la littérature, puisque, diapositive suivante, avant de se constituer en icône du cinéma d'horreur, c'est quand même de la littérature qui vient, puisque l'ancêtre du zombie romérien, le zombie vaudou tel qu'on retrouve par exemple dans les films de Victor Halperin, White Zombie en 1932, Revolt of the Zombies en 1936, Jacques Tourneur aussi, I Walked with a Zombie 1943. Donc ce zombie va être notamment d'origine littéraire, en grande partie par exemple avec l'ouvrage de William C. Brooke, présenté dans la diapositive suivante, de 1929, L'île magique, The Magic Island, qui a été aussi une influence non seulement pour ça, mais qui a eu un retentissement dans la littérature de l'époque. Je sais, un recueil de nouvelles de Paul Morand, par exemple, Magie noire, porte l'influence de Seabrook. Donc, le texte lui-même, mais aussi les illustrations d'Alexander King, par exemple, je vous en mets une, qui va avec le deuxième chapitre, je crois, « Dead men working in the cane fields », les hommes morts travaillant dans les champs de canne, chapitre consacré aux zombies. Des illustrations qui, en plus du texte de Seabrook, avaient frappé l'imaginaire du temps par leur caractère inquiétant. De même, le grand modèle de Romero pour son film de 68 était, en plus du folklore des ghouls, qui était bien présent dans les horror comics des années 1950, un célèbre roman de Richard Matheson, Je suis une légende, racontant le destin de Robert Neville, le dernier homme sur Terre, après qu'une pandémie eut transformé l'humanité en créatures semblables à des vampires. Mais si vous avez vu, par exemple, la plus récente adaptation de Francis Lawrence en 2007, ce sont des vampires qui ont davantage un caractère de zombies puisqu'ils sont caractérisés par leur côté anthropophage, leur tendance à former des hordes, etc.
Juste, Patrick, tu as parlé à un moment donné des ghouls. Hein, et les ghouls, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est un monstre, une créature, hein, pour revenir au thème des imaginales, mais qui est très ancienne et qu'on va retrouver notamment dans la littérature médiévale. Vous voyez, je pense que les zombies et puis même le vampire sont en fait des avatars en quelque sorte de ces créatures qui sont des créatures très anciennes. Et les ghouls, on en retrouve même des traces dans la mythologie antique, bien sûr, la mythologie grecque.
Tout à fait. Tout à fait. Et Romero, qui ne se servait pas lui-même du terme zombie, se servait du terme ghoul. Ils appelaient les ghouls. Voilà. Donc, influence, le texte de Matheson, qui est quand même un classique de science-fiction, hein, bien connu. Il y a d'autres adaptations au cinéma. Vous connaissez probablement celle de... Baldo Ragona et Sidney Salkov en 1964, c'était Vincent Price qui jouait de Last Man on Earth. Je crois que le titre français, c'est Je suis une légende. Et aussi Charlton Heston, The Omega Man, le survivant. C'était en 1974 dans le film de Boris Sagal. Mais dans les trois adaptations, c'est davantage celle de Lawrence en 2007 qui vraiment zombifie Et c'est bien dans l'esprit du texte de Matheson. Hein. C'est un vampire très, très zombiesque.
Dans le film de Matheson, justement, dans le film, pardon, dans le roman de Matheson, on a vraiment une ambiguïté complètement sur la créature parce que, en fait, il est entouré de ces humains touchés par un virus, mais c'est un virus qui les rend vampiriques. Donc, vous voyez, on est à la limite quand même de la littérature fantastique aussi.
Oui. On est en 1954 et donc le zombie n'existe pas encore tel qu'on le connaît aujourd'hui. Autres exemples, de proto-zombies, et là je sais qu'il y a des plus grands connaisseurs que moi dans la salle, mais on pourrait penser aux récits fantastiques de Poe, à ceux de Lovecraft, on pourrait même penser à ceux de Gautier, Machen, on pourrait remonter même à l'imaginaire biblique, hein, parce que, qu'est-ce que Lazare, qu'est-ce que la fille de Jaïr dans le Nouveau Testament? Voir Jésus lui-même. Je pense qu'on peut avancer les diapositives. Oui, Frankenstein. Il me semble que j'avais un peu... qu'est-ce que j'avais? La diapositive suivante. Lazare et la fille de Jaïr, donc figure de ressuscité. Et... Jésus lui-même, ou en tout cas dans le webcomic de Rob Liefeld, je ne sais pas si vous connaissez, c'est assez extrême, Zombie Jesus.
Et en fait, toute cette thématique-là, en fait, c'est la thématique, je vous l'ai dit, c'est le retour des... c'est la résurrection, c'est quand même le retour quelque part de quelqu'un qui est passé par le monde des morts. Et c'est aussi un thème qu'on va retrouver beaucoup dans la littérature gothique anglaise, sous le thème de la résurgence. Vous voyez, donc c'est, et qui a, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler après, mais je vous raconterai une des origines en fait, du mythe vampirique, se trouve aussi en Angleterre.
Ben, on est dans la transition, hein, parce que je vous disais, le zombie qui a eu vraiment le plus d'impact n'est pas un zombie littéraire, mais il y a quand même quelques exceptions, puisqu'il y a quand même des ouvrages qui ont quand même remporté un grand succès. Et je pense que ce que montre la diapositive suivante, donc pour l'Angleterre, la zombification du classique de Jane Austen, c'était par Seth Graham Smith il y a quelques années, Orgueil et préjugés et zombies. Donc, à la base, c'est un roman qui a été un succès de librairie avant de devenir un film il y a quelques années. Un roman amalgame, ce qu'on appelle en anglais un mash-up, un pot-pourri, si vous voulez, une réécriture. Alors, l'auteur prend le texte classique, c'est pour ça que Jane Austen reste... auteur de ce texte, mais avec quand même une réécriture, une zombification, donc ajout de passages qui vont zombifier l'histoire classique. Donc ça a connu quand même un certain retentissement. Ça a été dans les listes de best-sellers en Amérique du Nord. Il y a aussi le livre de Max Brooks, dont je vais reparler tout à l'heure, World War Z, qui a été un ouvrage, un roman zombie, si vous voulez, qui a connu un vrai retentissement. Vous avez aussi, et dans la mesure où les travaux d'universitaires peuvent servir d'indicateurs, vous avez carrément un champ d'études zombies. Vous connaissez peut-être ces ouvrages, donc il y en a plusieurs, mais j'ai reproduit quelques couvertures. Donc, qui s'intéresse dans une perspective savante aux zombies. Alors, le premier, Better Off Dead, est un recueil d'études comme il y en a plusieurs. Alors, souvent, ce qu'on va retrouver chez les travaux des universitaires américains, ce sera des études consacrées aux zombies cinématographiques. Celui de... pas les noms des auteurs, mais j'ai oublié de les noter ici. L'ouvrage paru, je crois que c'est aux Moutons électriques, qui retrace dans une perspective d'imaginaire étendue, donc toutes les différentes formes que prend le zombie dans la culture contemporaine. Et l'autre ouvrage qui paraît dans une collection où j'ai moi-même publié, Antonio Dominguez Leva, Invasion zombie, donc les différentes formes du zombie dans la culture populaire, donc dans une optique d'anthropologie culturelle. Donc, des approches tout à fait sérieuses pour un sujet qui est en même temps pas si sérieux que ça, parce que de toutes les formes d'apocalypse, le zombie se distingue quand même par son caractère d'apocalypse absurde. Hein? C'est peu probable qu'une épidémie se produise, qu'une invasion ait lieu. Donc, il y a cette association de l'abjection et du grotesque qui caractérise cette apocalypse fictive. Donc, voilà. Étape suivante, peut-être voir, avant de faire le parcours de lecture comme tel, les caractéristiques, les codes du récit de zombie, comparer rapidement, hein, simplement pour qu'on ait une base de référence, comparer le zombie filmique avec le zombie littéraire. Première observation, bien, c'est que les deux vont s'appuyer sur une même définition du monstre. C'est-à-dire, pour reprendre les termes, bon, que je vais traduire de l'anglais, de Shapiro, l'auteur de l'ouvrage que je vous mentionnais tout à l'heure, ce sont des coquilles de vie vides qui continuent de façon scandaleuse à fonctionner dans l'absence de toute activité rationnelle et de toute intériorité. Un cadavre animé qui se nourrit de chair humaine. Donc, c'est probablement les premiers éléments de définition, de caractérisation, en tout cas les traits les plus récurrents pour caractériser le zombie. Notamment, donc, une série de caractéristiques, la stupidité. Donc, dans la plupart des histoires de zombies, le zombie est stupide, lent. Bon, pas toujours. Vous avez vu peut-être les films de Danny Boyle où le zombie est capable de mouvements rapides, mais de façon, en tout cas, chez Romero, chez Kirkman, chez beaucoup d'auteurs, le zombie va être essentiellement lent. Et autre caractéristique essentielle, bien, c'est son anthropophagie, son appétit inextinguible, une pulsion irrépressible de tuer et consommer. Autre caractéristique centrale, la vulnérabilité cérébrale. Alors, le zombie est dénué d'esprit ou d'âme, mais il n'est pas sans cerveau, puisque c'est l'organe qui va servir de point faible pour anéantir un zombie. Il faut viser le cerveau. Autre caractéristique, le zombie individuellement se laisse assez facilement maîtriser, ne représente pas une menace autrement dangereuse, mais en horde, aussitôt qu'il y a une masse de zombies, une invasion, ben, il va finir par avoir raison des survivants. Donc, menace dans le nombre et dans la persistance, puisque un zombie ne se décourage jamais. Vous avez peut-être des images de zombies, peut-être un moitié de corps seulement, et tout ce qui lui reste de mouvement, il va quand même essayer... même si son effort est voué à l'échec, continuer à essayer d'attraper le vivant.
On a une belle image justement de masse de zombies dans le film World War Z, parce qu'on a, je ne sais pas si vous vous rappelez, tout le monde a vu ce film, j'imagine si vous êtes là, mais on a ces masses de zombies qui se montent, vous voyez, les uns sur les autres, notamment pour passer les murailles. Je crois que c'est une des images les plus fortes hein, dans cette puissance de masse zombie.
Ou sinon, ce qu'il y a de sympathique, c'est le zombie incarné par Denis Lavant dans La nuit a dévoré le monde. Je ne sais pas si vous avez vu, coincé dans l'ascenseur et là, donc neutralisé, mais toujours en train de... autre caractéristique qu'on va retrouver très souvent, c'est la trame apocalyptique, la vision d'une humanité envahie. Tu évoquais World War Z, le film, c'est exactement dans cette perspective-là. Ça offre la vision d'une humanité envahie par des zombies cannibales, vision qui est violemment apocalyptique. L'apocalypse vue dans la perspective d'un après-catastrophe et décrite conséquemment avec toute l'imagerie qui l'accompagne, par exemple l'image de la ville en ruine, le motif de la terre muette, le sous-texte, celui d'un jugement dernier sans rédemption, ce que Jean-Paul Angélibert appelait l'apocalypse sans royaume, etc. Autre caractéristique, l'ambiguïté entre l'effondrement et la renaissance, parce qu'il n'est pas dit qu'on va réussir à reconstruire la société, la civilisation effondrée, parce que le moteur du récit de zombies va assez rapidement porter sur la dégradation morale des survivants. Donc, on est aussi dans une filière, c'est la fiction survivaliste. La surenchère dans le détail gore, et c'est ce qui amène parfois le récit aux limites de l'humour, un humour qu'on pourrait dire de type splatstick, donc slapstick et splatter, donc la surenchère du décal, l'éviscération, les intestins en train de se faire dévorer, etc. Donc, une extrême dans le macabre qui en devient, qui fait frissonner et rigoler par la même... de la même façon. L'anomie, c'est-à-dire l'absence d'organisation ou de loi, la disparition de valeurs communes, bref, la dégradation morale des survivants. Autre caractéristique, l'indifférenciation entre les êtres, parce que le zombie égalise. Ça va être dans le défilement et de la masse zombie, ça va être... des zombies de tous les âges, de toutes les conditions, de tous les statuts sociaux. Donc, la zombification égalise ce que fait bien valoir. Je ne sais pas si vous avez des marches zombies en France, mais les zombie walk, c'est ce que les gens essaient de bien mettre en valeur. Le motif de la pandémie, de l'infection, qui est très présent dans les grandes peurs contemporaines, etc. Donc, est-ce que j'ai la critique sociale? Oui, des Romero... le thème sert à critiquer le racisme, le consumérisme, l'hyperconsommation, etc. Donc, on peut passer de là aux différentes catégories donc pour une littérature de zombies. Alors, la première, c'est aussi la plus nombreuse, la plus abondante, la plus difficile à circonscrire, celle des anthologies de nouvelles de zombies. À mon avis, qui est davantage un phénomène anglo-saxon, je n'ai pas tellement vu refléter dans les librairies françaises ce phénomène, mais dans les librairies des États-Unis, les anthologies de nouvelles de zombies, alors il en paraît continuellement des nouvelles. Bon, souvent, vont peut-être reprendre même certains textes. Vous avez certains textes de Stephen King ou de George R. R. Martin ou de grands auteurs du genre vont revenir un peu comme peut-être pour... être un incitatif commercial. Et donc, littérature très abondante, mais c'est aussi à cette catégorie qu'on pourrait faire remonter carrément les débuts de la littérature zombie, parce qu'on pourrait se reporter à 1989, anthologie de John Skip et Craig Spector, Book of the Dead, à laquelle avaient contribué 16 fantastiqueurs, dont Stephen King et Robert McCammon. Le recueil s'ouvrait sur un avant-propos de Romero lui-même. Des propos de Robert Bloch, cités dans l'introduction, ne laissaient planer aucun doute sur les motivations des auteurs de l'anthologie, qui se demandaient qu'est-ce qui pouvait bien venir... What's going to come out of those people who think that Night of the Living Dead isn't enough? Qu'est-ce qui pourrait bien sortir de l'imagination des gens qui croient que la nuit des morts vivants, donc le film de 68, n'était pas assez? Il fallait poursuivre, étendre l'imaginaire. Donc, il s'agissait d'étendre les possibilités narratives de l'univers romérien. Exploration, hommage, émulation, il y avait un peu tout ça dans l'anthologie, dans la démarche des auteurs de nouvelles. Ce qui suggère aussi à la fois l'appropriation collective du zombie. Le zombie est une figure, est une créature qui appartient à tout le monde. Chacun va le décliner à sa façon. Si bien que Romero lui-même dit qu'il n'a pas créé le zombie, et c'est pour ça qu'il évoque ses films comme les différentes occasions où il a vu les morts marcher. Donc, chacune coïncidait avec le tournage d'un de ses films. Voilà pour ça. Donc, cette anthologie pionnière, si on veut, a été suivie de Still Dead 2, Book of the Dead, Still Dead, Book of the Dead 2 en 1992, avec une préface de Tom Savini, connu comme un grand maquilleur des films de zombies et qui a réalisé lui-même un remake de La Nuit des morts vivants en 1990. Donc, il y en a d'autres. 2006, Mondo Zombies, Zombies Rencontre, Encounters with the Hungry Dead en 2009, Rencontre avec les morts affamés, etc. Donc, c'est pour cette première catégorie, entreprendre l'inventaire, c'est peine perdue parce qu'il en existe vraiment de très nombreux. Donc, vous en voyez d'autres exemples ici. On voit bien par la mise en forme, l'illustration de couverture qui programme la lecture. Et donc, on voit bien qu'on est dans cette lecture programmée. Qu'est-ce que j'avais ici? Du lot, c'est sûr, bon, il y en a plusieurs. Une nouvelle qui est particulièrement intéressante, celle de Dan Simmons, This Year's Class Picture, la photo de classe de cette année, qui nous fait suivre les efforts d'une institutrice, Mademoiselle Geiss, pour continuer à faire la classe à son groupe d'élèves de quatrième année, qui sont tous de petits zombies. L'institutrice qui vit dans une école fortifiée, on est plusieurs années après une dévastation zombie. Et donc, c'est ça, on fait au fil du texte la découverte, assez tôt quand même, que ce sont de petits zombies. Un récit dont la force vient à la fois donc de la forme condensée, donc de l'usage de l'ellipse. On apprend très peu de choses sur l'apocalypse zombie. Et ça, c'est une caractéristique qui va revenir. Les apocalypses zombies versus les autres formes d'apocalypse, où on va vraiment expliquer les causes. En général, un événement mystérieux a conduit à l'apparition de zombies. Par exemple, dans The Walking Dead, personne ne va vraiment savoir d'où vient ce phénomène. Deuxième catégorie, on pourrait dire, alors c'est une catégorie très abondante aussi, et j'ai vu tout à l'heure, il y a des titres en circulant dans le kiosque, la librairie là-bas, des titres que je ne connaissais pas. C'est un genre qui prend de l'ampleur aussi, donc ce qu'on pourrait appeler carrément le roman de genre zombie, donc qui paraît chez des éditeurs spécialisés en littérature de genre ou dans des collections spécialisées, et donc qui dès la couverture, hein, on voit qu'on va entrer dans un roman de zombies. Donc, il y en a plusieurs. Je reprends les exemples que j'avais pris tout à l'heure. David Wellington et sa trilogie Monster. Ça a été traduit en français. Vous avez les romans de Jonathan Maberry, Apocalypse zombie. Un certain nombre de romans depuis 2010, parus en français aux éditions Milady. D'autres chez Bragelonne, chez Castelmore. Donc, la particularité, si je reviens, oui, ceux de Brian Keane, ceux de David Moody. Bon, la particularité avec les romans de Wellington qu'on voyait dans la diapositive précédente, c'est qu'avant de paraître en roman, ils avaient paru d'abord en forme de web feuilleton. Donc, on pouvait suivre sur Internet les différents chapitres ajoutés par l'auteur avant qu'il décide justement de le publier de façon plus traditionnelle. Jonathan Maberry, plusieurs romans zombies qui exploitent aussi le type du thriller bioterroriste. Dans certains cas, des romans d'apocalypse zombie pour adolescents. Plusieurs autres exemples que je peux sauter. Diapositive suivante. Le roi lui-même, donc Stephen King, 2006, le roman cellulaire, Cell, où est-ce que une. Alors ici, l'origine est déjà un peu plus précise, puisqu'on sait que c'est une étrange pandémie transmise par la technologie cellulaire, donc qui transforme les gens en créatures qui évoquent le zombie. Et ce n'était pas surprenant que King écrive dans l'inspiration romérienne, puisque King était un grand amateur des films de Romero. Et peut-être même un ami personnel du cinéaste. Aux limites du genre, vous avez le cas assez original du roman d'Alden Bell, qui a été traduit, alors c'est en folio SF. Comment ça s'appelle en français? Les Faucheurs sont les anges, The Reapers are the Angels. À sa manière, inaugure une veine que l'on pourrait qualifier d'épopée zombie, puisqu'on va suivre les déambulations de Temple, une survivante qui est née après le déclenchement de l'apocalypse zombie, donc qui n'a pas connu le monde avant l'effondrement, et son destin la met nez à nez avec un homme, Moses Todd, qui va être résolu à la tuer. Donc, on est dans un récit de vendetta, on est presque dans un western aussi. C'est pour ça qu'on trouve une grande similarité avec un autre western de vendetta de l'auteur canadienne Gil Adamson, La Veuve. Donc, il n'y a pas de zombie dans La Veuve, mais le côté western, vendetta, on trouve une grande similarité de ton, j'ai trouvé, entre le roman de Bell et celui de Adamson. La troisième catégorie, qu'on pourrait dire, bon, on pourrait inclure soit les comédies zombies, hein, les zomédies, ou les mash-ups que j'évoquais tout à l'heure, les pots pourris. La tendance à faire de l'humour, bon, on s'entend, c'est beaucoup d'humour noir, avec le zombie, très présente au cinéma dès 1985 avec Le Retour des morts vivants de Dan O'Bannon, où on peut penser aussi à Brain Dead, 1992 de Peter Jackson, et plus récemment, vous avez peut-être vu les films de Edward Wright, Shaun of the Dead, Fido, d'Andrew Curry. Donc, une veine parodique ou comique qui est très, très présente au cinéma, mais qui est aussi pas mal présente à l'écrit, qui va amalgamer les motifs de l'horreur avec des éléments d'humour tarte à la crème, splatstick et d'humour noir. Ici, une liste exhaustive. Je ne suis pas certain que ça a été traduit en français, mais on peut penser, par exemple, à la zombification des Beatles dans Paul is Undead d'Alan Golcher, la zombification de Star Trek dans Night of the Living Trekkies de Kevin David Anderson et Sam Stahl. Je l'évoquais tout à l'heure, Seth Graham Smith, qui a zombifié le roman classique de Jane Austen, Orgueil et préjugés et zombies, et devant le succès, donc je pense que c'est la diapositive suivante, qui a imaginé donc deux... Un épisode antérieur, un prequel et une suite, Dawn of the Dreadful et Dreadfully Ever After, signé par un autre auteur, Steve Hawkinsmith, donc qui va dans la même vague. Ça encore, je ne suis pas certain que ça a été traduit en français. Et alors là, donc, entre 2004 et 2009-2010, il y en a eu vraiment plusieurs. Ça a été toute une vogue. Un auteur qui avait, par exemple, fait de Undead World of Oz, donc le magicien d'Oz zombifié. Vous aviez les aventures de Huckleberry Finn et le zombie Jim. Robin Hood, Robin des Bois et le frère Toc, tueur de zombies. La guerre des mondes, the War of the Worlds plus Blood, Guts and Zombies, Alice in Zombieland et la zombification de Star Wars hein, avec Death Troopers. Donc vraiment...
En fait, on rentre dans un phénomène assez contemporain qui est l'hybridation. Des littératures de l'imaginaire, puisque là, vous voyez très bien l'hybridation avec la science-fiction, avec Star Trek, avec Star Wars, avec Wells. Donc ça, c'est vraiment une des tendances, une des grandes tendances de la littérature, des littératures de l'imaginaire contemporaine, de mélanger, de faire de la science-fantasy, de faire la zombification des grands personnages finalement mythiques de la science-fiction.
Tout à fait. Ah, il nous reste 5 minutes. Bon, on va avancer un peu plus rapidement. Donc, parce que j'ai deux autres catégories. Alors, je vous présente rapidement la quatrième pour m'arrêter un peu plus longtemps sur la cinquième qui contient moins de titres. Donc, vous avez vu que jusqu'à présent que le zombie était essentiellement anglo-saxon. Il existe quand même des interprétations, des appropriations à l'international du zombie. On peut faire défiler. Donc, zombies japonais dans des mangas, zombies turcs, de Sem Ozuduru, Zombistan, la série manga Tokyo Zombie de Yuzaku Anakuma, ou de John Aljvid Lindqvist, à qui on doit Laisse-moi entrer, un roman de vampire. On lui doit aussi Le retour des morts. Zombies espagnols, chez plusieurs auteurs. Là, je passe rapidement parce que les Espagnols s'intéressent beaucoup aux zombies. Aussi des zombies à la française. Je pense que c'est ce qu'on voit. Alors, ça a été d'abord au cinéma, tentative plus ou moins réussie de Jean Rollin et de Yannick Dahan, Benjamin Rocher, donc Les raisins de la mort, Le lac des morts vivants, La Horde plus récemment. Exemple plus récent qui sont personnellement, je les considère comme vraiment bien réussis, La nuit a dévoré le monde, Dominique Rocher, c'est tout récent, c'est de cette année, et de Robin Aubert, Les affamés, donc film québécois de zombies, très réussi. Et donc, côté roman, ben, vous en avez plusieurs. Si on fait bande dessinée, oui, plusieurs exemples possibles. Roman, certains dans la voie, c'est plutôt le zombie de tradition vaudou, René Depestre, Adriana dans Tous mes rêves, Stanley Péan, Zombie Blues, mais aussi donc avec dans les apocalypses d'Andrevon, hein, le reflux de la nuit qui ont peu apparenté au récit de zombies, Le revenant de l'ombre, mais surtout, donc 2004, c'est la diapositive suivante, Zombies, dont les illustrations de couverture laissent envisager un caractère gore qu'on ne va pas vraiment retrouver, en tout cas, il n'y a pas de surenchère dans l'horrible, dans le macabre, même si le fond reste tout à fait apocalyptique et exploite tout à fait les codes du genre. Donc, il y en a d'autres.
Ça, juste par rapport à Jean-Pierre Andrevon, qui est quand même un des grands auteurs de science-fiction français, hein, depuis quasiment... il a commencé donc dans les années 60. Et j'en discutais très récemment avec lui en septembre. Il me disait justement que c'était un peu sa dernière veine. Voilà, c'était ce qu'il avait envie d'explorer, qu'on va retrouver, bien sûr, hein, dans Le Monde Enfin aussi, et puis dans La Maison qui glissait. Il a ce thème-là voilà, qui touche à l'horreur, et c'est sa dernière... Enfin, il estime que c'est une de ses dernières expérimentations. Voilà.
Ouais. J'évoque aussi, parce qu'il a remporté le prix Julia Verlanger en 2016 de Karim Berouka, qui est présent au festival Le Club des Punks contre l'apocalypse zombie. Donc là, vous allez à la fois les codes du récit zombie qui sont exploités avec l'esthétique punk, dont toutes les références du mouvement punk sont là. Donc c'est un domaine qui est déjà bien développé, plusieurs illustrations, certains textes qui se démarquent. Mais j'en arrive à la dernière. Donc rappelez-vous, au départ, je cherchais le grand roman de zombies. Et donc dans les spéculations zombies plus élaborées, je retiens d'une part de Max Brooks, World War Z. D'abord, parce que la mise en forme est très originale, Brooks s'inspire de documents d'histoire orale, donc de l'histoire d'un L'événement de référence, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Donc, de témoins qui, chacun, va apporter son témoignage, sa vision, sa perspective subjective. Et donc, vous allez avoir une vision sur l'ensemble du phénomène en additionnant les différents témoignages individuels, les différentes subjectivités. Alors, du coup, c'était pratiquement impossible à adapter en film. Et ceux qui ont vu le film et qui connaissent le roman de Max Brooks vont voir de grandes différences entre les deux, parce que la forme du roman de Brooks un peu inadaptable comme tel, donc il faut vraiment transformer pour avoir un scénario qui va suivre certains personnages de façon plus suivie. Donc ça, à mon avis, ça se classe dans les grandes réussites littéraires de fiction zombie. Et l'autre exemple, ben, c'est l'auteur Colson Whitehead, qui a remporté le prix Pulitzer cette année avec Underground Railroad, et qui signait en 2011 The Zone 1, qui a été traduit chez Gallimard. Donc, vous voyez, alors, bon, là, vous n'avez pas la jaquette, l'illustration qui accompagnait cette édition en librairie, qui évoquait plus l'imaginaire zombie. Sinon, vous êtes dans une collection donc du monde entier. Il n'y a absolument rien qui nous laisse imaginer qu'on est dans un texte de zombie. Et donc, vous êtes... Alors, c'est un hommage à Romero. Whitehead voulait clairement faire un hommage à Romero, mais d'une grande plume d'écrivain, donc avec une construction narrative complexe, des retours en arrière, un travail sur la temporalité narrative, sur la focalisation. Donc, un texte qui non seulement contribue à l'imaginaire littéraire des zombies, mais qui propose un texte très travaillé sur le plan de l'écriture, de la mise en forme narrative. Donc, à mon avis, en tout cas moi, un de mes romans zombies préférés, et c'est celui à laquelle j'arrive dans ma quête d'un grand texte zombie, ben c'est Zone 1. Voilà, ce qui m'amène à la question, à la diapositive de conclusion, discussion.
Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à Patrick Bergeron concernant donc cette magistrale présentation donc, de la littérature zombie et du zombie en général. J'espère que vous allez... Alors, voyez, je pense que là, vous avez aussi une illustration de ce qu'on peut faire donc, à l'université sur des thèmes comme ça. On s'empare hein, vraiment complètement maintenant des thèmes de la culture populaire. Et dans ce cadre-là, voilà, on a une exploration, un historique finalement du zombie, de ses représentations. Là, Patrick a évidemment pas du tout le temps de vous parler de toutes les interprétations qu'on pouvait faire de ces différents textes, de ces différents films. Mais voilà, on peut maintenant créer vraiment une archéologie finalement de la littérature et du domaine des zombies. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser éventuellement? On n'a pas de micro hein, pour bouger, donc. Allez-y.
En fait, c'est pas vraiment une question, mais il y a quelques années, en fait, en parlant d'anthologie zombie, les Imaginales avaient sorti une anthologie, je crois que ça s'appelait Zombie et autres infectés. C'était au temps de l'édition 2014 ou 2015. La couverture était verte.
Peut-être 2014, il me semble. Non
et ouais, ça, 2015. Ça réunissait des auteurs français, essentiellement? Donc, quelqu'un qui s'intéresse à la littérature zombie pourrait peut-être le trouver.
Écoutez, merci de l'info, hein, merci effectivement. De l'info. Voilà, on a aussi l'auteur évidemment Karim Berouka qui est sur le festival et c'est intéressant voilà d'aller lui parler parce que c'est une thématique qu'il aime véritablement même s'il la traite évidemment un petit peu sur le mode comment tu dis la zomédie Voilà, il y a cette espèce de, si vous voulez, de finalement, on prend un petit peu de distance, c'est assez comique. Voilà, c'est vraiment une littérature intéressante. Je trouve que c'est une littérature assez plastique. C'est-à-dire qu'on est passé finalement de l'horreur assez basique, hein, parce que bon, le zombie, au départ, c'est ça. Hein, voilà, c'est une horreur assez basique. Et en réalité, là, vous voyez, en fait, on a une figure vraiment de l'horreur qui intègre complètement donc la grande littérature. Moi, je n'ai pas lu Zone 1, mais du coup, je vais me précipiter dessus. Voilà, après le festival. Pour essayer de connaître évidemment ce titre-là. Et je vous disais aussi au niveau de la résurgence, donc en fait très souvent les mythes vampiriques, hein, alors il y a plusieurs évidemment, plusieurs origines, hein, on connaît tous l'origine bien sûr du vampire et du phénomène qui prend sa source en Transylvanie, hein, ça c'est une figure folklorique bien sûr, mais il y en a une autre et notamment des figures qui sont liées à la résurgence des morts et notamment, alors j'ai appris ça de mes collègues donc évidemment anglicistes, mais dans la littérature gothique, hein, notamment au XVIIIe siècle, eh bien, on s'inspirait d'histoires assez terrifiantes où, lorsqu'il y avait de grandes maladies, en fait, on enterrait les gens assez vite. Sans que les gens soient forcément totalement morts. Et donc, souvent, bah, ils pouvaient se réveiller, ou ils étaient un petit peu, vous voyez, dans le coma, enfin, ou en très mauvais état. Ils pouvaient se réveiller, et puis évidemment, ils se réveillaient dans des cercueils de bois qui étaient faits à la va-vite, vous voyez, qui pouvaient casser. Donc, ils remontaient dans la terre, etc. Et ils remontaient couverts de sang, complètement blancs, totalement aves. Et c'est ce genre, si vous voulez, d'histoire qui finalement a mené à la résurgence des morts, mais également donc au mythe des vampires, vous voyez, cette espèce de grande famille finalement de la résurgence des morts à laquelle appartiennent aussi les zombies. Voilà. Et puis il y a aussi le phénomène des ghouls, bien évidemment, qu'on retrouvait, donc, dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc c'est des figures qui sont très anciennes, qui ne sont pas forcément des figures mythiques, hein, mais qui reviennent assez régulièrement et sous des formes finalement tout à fait différentes dans la littérature, dans le cinéma. Et ce sont des créatures, hein, pour revenir évidemment au thème du festival, je raccroche un petit peu, ce sont des créatures qui ont la vie dure parce que finalement elles représentent ces créatures qui reviennent du monde des morts. Mais finalement, le monde des morts, personne ne peut nous en parler. Et ce sont des créatures qui sont totalement des coquilles vides, comme disait Patrick, donc qui ne peuvent rien nous dire. Sur les morts. Je pense très souvent au roman, par exemple, de Stephen King, Cimetière, avec un S, parce que dans Cimetière, les personnages qu'on entend... Enfin, oui, c'est ça, les personnages ou les animaux qu'on enterre dans le cimetière indien reviennent, mais ils reviennent sous la forme, vous voyez, de zombies, de créatures démoniaques, incapables évidemment de parler, incapables d'avoir une conscience, et donc incapables de nous parler du monde des morts. Et je pense que s'il y avait peut-être une... Je ne sais pas une interprétation, mais au moins une signification à cette figure du zombie, ce serait en partie celle-ci, c'est-à-dire des créatures qui reviennent du monde des morts, mais qui ne peuvent pas nous en parler et qui donc ne nous apportent pas la connaissance de ce qu'est la mort. Voilà. D'autres questions ? Eh bien, écoutez, sinon, nous allons clore cette séance donc sur les zombies, en espérant que vous avez appris plein de choses et que vous êtes repartis avec une liste de livres absolument gigantesque. Merci Patrick, en tout cas.
Merci Natacha.